J'aimerais approfondir un peu le rôle et la manière de gérer les émotions perturbatrices. La colère en particulier, mais toute la gamme de ce qui est lié à l'inquiétude, à la frustration, à la honte. Les émotions nous coupent d'une ouverture au monde, d'un champ vaste de conscience. Lorsque je suis en colère, mon monde se referme sur énergétiquement cette histoire-là. Nous devenons ou nous vivons dans une sphère étroite et limitée. Nous oublions notre appartenance au tout. Et malgré la souffrance qu'elle nous impose, elle colle. Les choses collent quelquefois longtemps. La colère vient lorsque nous avons des attentes et que ces attentes ne sont pas réalisées, lorsque nous avons des demandes et que nous ne sommes pas obéis, lorsque nous avons des grands désirs et qu'ils ne peuvent pas être réalisés. Et nous souffrons parce que la vie, elle est au fond équanime, la vie. Elle offre de la joie, de la peine, elle offre ceci, cela. Elle n'a pas une logique qui correspond à un moi qui établit sa propre logique. Nous nous mettons donc à rebrousse-poil de la vie et nous souffrons. Et pourtant, nous continuons à croire que la vie devrait être comme je la veux. Il y a des grandes colères qui demandent une grande compassion. Mais il y a toutes ces petites colères que nous avons parce que l'autre arrive en retard, parce que la voiture devant moi part pas au feu rouge, parce que j'ai brûlé mon riz. Il y a toutes ces petites colères qui viennent. Ou parce que notre équipe préférée a loupé son match. Et c'est facile de voir je suis en colère. Tout le monde est capable de voir je suis en colère. Les colères qui posent problème, ce sont celles que nous n'arrivons pas à reconnaître et à ressentir et à lâcher. C'est celles que nous réprimons. Il y a des colères que nous évitons soigneusement de laisser émerger en surface parce qu'elles sont trop envahissantes ou parce qu'elles ne correspondent pas à notre idéal. Alors, il y a cette suppression du ressenti de la colère et ça n'est pas libérateur. Ça crée une tension à l'intérieur qui peut sortir sous forme de maladie ou d'explosion de rage ou de dépression ou de sentiment persistant d'injustice. Ou l'autre alternative, c'est de la laisser s'extérioriser, soit à l'intérieur, en ruminant, en répétant comme c'est, comme ci, comme ça, ou alors à l'extérieur, en critiquant, en blâmant l'autre, la situation, en nous plaignant. Et lorsque nous faisons ça, que ce soit la suppression ou l'expression, nous croyons à cette énergie. Nous croyons que la pensée est vraie. Nous croyons que ce qu'elle nous dit est vrai. Il faut que je la supprime, que je la réprime. Ou il faut que je dise. Et ça n'est pas ça de contempler la colère. Ça ne va jamais nous guérir, ni l'extériorisation, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ni la répression. Voir la colère en pleine conscience, c'est en faire l'expérience. Et faire l'expérience de la colère, ça n'est pas rester dans le bien et le mal, espérer ne plus être en colère, exiger que ces énergies s'arrêtent, c'est nous ouvrir. Waouh, maintenant il y a la colère. Et en faire l'expérience, c'est lâcher même le mot colère pour venir dans l'énergie même du ressenti corporel. Je l'ai déjà dit, mais on peut le redire parce que il y a du doute. Nous ne savons pas que c'est le chemin. Et nous restons dans quelque chose de mental qui, au fond, nous empêche de connecter vraiment l'émotion perturbatrice. C'est pareil avec la peur ou l'inquiétude ou l'anxiété. Même si nous prenons un coussin et que nous tapons sur le coussin pour exprimer notre colère, nous n'en faisons pas l'expérience. L'expérience de la colère est une expérience extrêmement intime et fine. C'est cette montée d'adrénaline, on peut sentir l'adrénaline qui monte et qui se pose quelque part et ça tend, ça fait mal quelque part. Ça peut faire un bloc ou une pulsion dans le corps. En général, nous sommes tellement pris dans nos justifications, nos critiques ou notre évitement qu'il n'y a pas de place pour ressentir l'expérience de la colère. Et la pleine conscience est là pour permettre à l'esprit d'être tranquille, d'être fort, ancré, stable, de manière à pouvoir recevoir cette énergie quand elle émerge. Et d'être tranquille avec cette énergie. C'est Nagarjuna qui dit: lorsque tu reconnais les émotions toxiques, sois tranquille comme une pièce de bois. Lorsque nous avons cette énergie qui arrive, c'est difficile parce que ça va très vite. Nous sommes en général au milieu d'une interaction avec quelqu'un ou dans un contexte et il n'y a pas le temps d'être comme une pièce de bois. C'est OK. Alors, je peux voir où là j'ai fait mal. C'est vrai, j'ai fait mal. Lorsque je l'ai exprimé. Ou je me fais mal lorsque je la réprime. Je peux déjà me souvenir que de l'exprimer, c'est créer du karma, c'est créer une cause à l'extérieur qui aura des effets. Donc, ça n'est pas une solution. Peut-être que ça fait du bien. Ça fait assez de bien d'exprimer sa colère. On a le sentiment d'avoir raison, que enfin j'ai pu dire. Mais si nous regardons un peu plus loin, à court terme, peut-être que c'est bénéfique, mais profondément, cette loi de cause à effet, où rien jamais ne se perd, fonctionne. Et une fois ou l'autre, ces énergies négatives, douloureuses que nous émettons parfois, elles auront un effet. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'exprimer pour se soulager ou de réprimer pour ne parce que je n'ose pas que de rencontrer. C'est difficile de rencontrer. Ça demande de prendre sa responsabilité. Il n'y a qu'une seule personne qui peut créer mon bonheur ou mon malheur, c'est moi. Donc nous venons dans le corps, la première chose, venir à l'intérieur. Il y a cette jolie histoire où les dieux, il faut que je m'en souvienne, je vais pas m'en souvenir, je crois, tant pis. Mais bref, la connaissance a été cachée à l'intérieur de l'homme. Les dieux voulaient cacher la connaissance quelque part. Et puis, il y en a un qui dit, mais on va la mettre au fond des océans. Et puis quelqu'un dit, non, ils feront un mésoscaphe, quelque chose, ils iront le trouver. En haut des montagnes, non, non, ils inventeront un avion, ils le trouveront. Au milieu de la terre, oh non, tu vois, ils arriveront à creuser. Alors, on met où? Et puis, un tout petit dieu trouve tout d'un coup une idée, il dit, ben, on peut le mettre à l'intérieur de l'homme. Et la vérité ou la sagesse a été mise à l'intérieur. C'est là que nous trouvons la libération de la souffrance. Nous pouvons voir comment nous restons dans la caverne protectrice de l'expression de la souffrance, voir ces pensées qui envahissent, qui obsèdent. Et nous pouvons voir comment derrière il y a cette volonté que mes attentes soient assouvies, que mes désirs soient réalisés. Et ça demande une certaine humilité. On peut sentir cette forme d'égocentrisme qui est là. Et alors nous faisons la clarté en venant à l'intérieur. Avec qui nous sommes, sans blâme, sans justification. Il y a une qualité d'honnêteté et de d'authenticité dans l'établissement de la pleine conscience. Le moment où nous vivons la colère est toujours suivie par cet instant où il y a une pensée qui soit blâme et critique, soit explique et justifie. Et c'est important de voir la différence entre être dans la justification ou dans la culpabilité ou le jugement, ou voir que je suis en train de justifier et de juger. Et c'est extrêmement différent de dire « Ah, juste maintenant, il y a une pensée de justification. » Ou « Ah, juste maintenant, c'est une pensée de culpabilité. » Et voir. Ok, il y a la culpabilité juste maintenant. Que d'y croire. Et la pleine conscience, elle sert à ça, à nommer ce que je fais, hein, avec cet intérêt qui pose à nouveau la vision dans quelque chose de large. Ok, moi je suis dans mon truc là, avec la colère, mais ah tiens, juste maintenant il y a une pensée de culpabilité. Ça nous connecte aux autres, au monde. Nous sortons de ce conditionné personnel fermé pour entrer dans une certaine ouverture à l'inconditionné. Sammasati, c'est cette conscience sage qui sait accueillir les émotions perturbatrices. Et quand la présence fonctionne bien, alors la seule chose qu'elle fait, c'est recueillir des informations. La qualité d'investigation, elle est vraiment autour de ce recueil de qu'est-ce qui se passe dans le corps. Et un recueil fin qui peut nommer si c'est... quelquefois, il y a cette impression d'avoir un oursin, un truc avec plein de pics. Ou un obus à la place du cœur. Des fois, moi, c'est ça qui vient, c'est cette espèce d'obus à la place du cœur, tout lisse, tout froid. À quoi ça ressemble? Comment c'est? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est vibrant? Donc, la première chose, c'est de sortir de l'image de comment les choses devraient être. Ensuite, de se souvenir que les émotions perturbatrices, c'est le chemin. Ça n'est pas une erreur. L'autre qui me met en colère est mon maître. Ensuite, modérer ou éviter ou en tout cas voir nos stratégies de justification ou de blâme. Et puis, venir directement dans le corps. Premier fondement de la présence. Et c'est transformateur. Ça crée dans l'instant une détente, faites l'expérience, ne me croyez pas. Ça crée un relâchement de la cause de la souffrance qui est ce sens du moi. Je crée un moi qui a un problème, qui est ce qui est ci, qui est ça. En créant un moi, je crée aussi un toi. Quelquefois, en faisant ce travail de contemplation, nous pouvons voir que derrière une émotion, il en a une autre. Derrière la colère vient un grand chagrin. Ou une grande peur. Et nous pouvons à nouveau contempler, nous collons à l'instant. Quand l'émotion change, ok, maintenant c'est quoi? Maintenant c'est quoi? Et peu à peu, nous voyons que nous sommes bien plus que ce petit moi qui cherche à assouvir ses demandes, ses attentes et ses désirs. Nous sommes cette conscience large qui peut contempler. Nous touchons à un potentiel de la nature humaine qui est grand. La colère rend l'instant misérable, mais donne un certain sentiment de pouvoir qui fait qu'elle semble bonne. On se sent authentique ou bien ça valide notre existence. Mais d'une certaine manière, c'est juste le moi qui perpétue ce rêve du moi. Le moi a des rêves que nous recréons encore et encore. Et avoir un rêve, ça veut dire ce serait mieux ailleurs, autrement, je ne suis pas assez. Woody Allen qui dit c'est fou ce que je serais heureux si j'étais heureux. La colère n'est pas un mal, c'est un attribut de la nature humaine, ça fait partie du monde conditionné. Et lorsque nous l'avons rencontrée à l'intérieur de nous-mêmes, nous ne sommes pas libres de la colère parce qu'elle existe chez les autres. Et lorsque nous créons de la souffrance par nos jugements, tout ce que nous faisons, c'est cette deuxième flèche qui crée une souffrance de plus parce que nous vivons par procuration dans une image de ce que nous pensons que le monde devrait être. Et c'est un processus que nous faisons encore et encore. Avec la pratique de metta, nous... quelque chose s'allège. L'importance que nous donnons à notre propre drame devient plus intégrée dans ce qu'on appelle dukkha. Il y a dukkha. Il y a la souffrance. Et ça n'est pas ma souffrance, c'est la souffrance du monde. Et quelquefois, elle passe à travers moi. C'est Ajahn Chah qui dit, cette pierre qui est là, est-ce qu'elle est lourde? Il y a une grosse pierre sur le chemin. Et puis un moine dit, oh ben ouais. Et puis Ajahn Chah lui dit, elle est lourde seulement si tu veux la porter. L'idéal est lourd. La colère est une émotion perturbatrice qui n'est pas un mal, mais qui n'est jamais justifiable. J'ai à prendre la responsabilité de ma propre colère et de toutes les émotions perturbatrices qui émergent. Ce qu'Annick de Souzenel appelle les animaux intérieurs. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires précieux, parce que la conscience grandit dans la rencontre avec les émotions perturbatrices. La libération ne se réalise que dans la rencontre avec ces animaux intérieurs. Nous ne pouvons pas faire l'économie de ces rencontres qui nous limitent si nous voulons obtenir une vision globale. Et quand nous avons manqué le coche, après coup, nous pouvons toujours regarder ce qui s'est passé. D'abord la situation, objectivement, les faits. Après l'émotion que ça a engendrée. Et après la stratégie que nous avons mise en place. Est-ce que j'ai réprimé? Est-ce que j'ai abondé? Est-ce que je me suis complet? Est-ce que j'ai été dans la complaisance ou dans l'expression ou dans le ressassement? Et lorsque nous faisons ce travail d'introspection et de conscience, l'espace que nous donnons à l'esprit fait qu'au lieu d'être dans la réactivité, je peux être dans l'acte. Je peux poser un acte qui est quelquefois un acte puissant, mais il est posé avec l'énergie juste. Il ne crée pas de karma. Lorsque je mets un stop à quelqu'un en étant totalement ancré dans ma verticale, peut-être je fais du mal, je lui fais mal, mais je ne crée aucun karma. Il y a une énergie juste. J'ai une petite parole là. Qu'en est-il du chagrin légitime que nous pouvons éprouver devant les relations abusives, l'injustice sociale ou l'oppression politique? Certainement, il y a des dommages légitimes et des injustices qui requièrent notre attention et notre action. Pourtant, si nous le faisons sur la base d'un jugement, insistant sur notre vertu ou celle d'un autre, et condamnant le mal chez ceux qui nous font du tort, il est peu probable que nous puissions agir d'une manière constructive qui mène à une paix vraie et à une justice accomplie. Il y a Le Bouddha a parlé de ces cinq khandhas que j'aimerais reprendre, qui décrivent une expérience humaine. Comment est-ce qu'une expérience humaine peut avoir lieu? Il faut qu'il y ait un contact. Et le contact peut être une pensée, un souvenir, quelque chose que je vois ou que j'entends, ou une situation. Et ce contact engendre un ressenti est une interprétation, une représentation qui est basée sur notre passé, sur nos souvenirs. On sait que les aveugles, lorsqu'ils retrouvent physiquement la vue, ils ne voient rien dans un premier temps, parce qu'ils doivent construire l'image de ce qu'ils voient. Et ça prend du temps. Donc, lorsque un contact émerge, il y a tout un magasin de vécus passés qui font que le contact subjectivement devient une expérience pour nous. Deux personnes vivront autre chose avec un même contact. Et ça, c'est quelque chose qui se passe. Ça se passe, nous n'avons aucun impact possible sur le fait que si je vois un gros chien, je me dis, ah tiens, c'est un gros chien, c'est agréable ou désagréable. Là où nous devons être attentifs, c'est dans la possibilité de reconnaître l'expérience. Parce que à partir de là, soit nous allons dans ce qu'on appelle tanha, c'est la soif, et la réactivité, ou bien nous allons dans ce qu'on appelle chanda, c'est l'investigation, l'ouverture et la pleine conscience. Dans un des cas, la pensée m'utilise. Je n'ai aucun choix. Je pense, mais je pense, la pensée m'est imposée. Et dans l'autre cas, la pensée est au service de la conscience. Donc les constructions vont grandement changer. Je me souviens une fois, je fais une petite anecdote. J'étais en retraite, moi j'ai peur des chiens parce que j'ai été mordue quand j'étais jeune. Puis j'étais en retraite et puis je marchais sur un chemin, un long chemin comme ça. Et puis il y a un chien qui vient. Et puis je nommais tout ce que je faisais. Je nommais gauche, droite, un son, un arbre. Je nommais ce qui venait à moi. Puis il y a le chien qui vient. Puis je disais un chien, un chien, un chien. Puis tout d'un coup j'entends une voix qui me dit mais tu vois pas, il y a un chien! Et puis une autre voix qui a répondu, ouais, c'est bon, pas de panique. Puis j'ai fait trois pas comme ça, puis j'ai passé de l'autre côté. La pleine conscience donne à la pensée de l'espace. Au lieu que le processus de cause à effet, je vois ça, je fais ça, se fasse à toute vitesse, comme dans le monde ordinaire non conscient. La sagesse fait son œuvre. Et c'est sûr que la vie est douloureuse et les émotions sont puissantes. Et quelquefois, nous n'avons aucun outil. Quelquefois, nous sommes perdus. Et ça fait partie du chemin. C'est un monsieur Brown qui dit, quelquefois nous ne pouvons pas voir comment nous en sortir ou comment passer au travers, parce que cela même est le chemin. Tout ce qu'il faut faire, c'est un pas de plus, et encore un, et encore un. Et dans ces moments-là, c'est important de se souvenir de ça. C'est les moines du désert qui disent, Garde ton âme en enfer et ne désespère pas. Ben ouais, si nous voulons rencontrer les émotions perturbatrices, il n'y a pas le choix. Ils disent aussi que la vraie prière et l'amour ne sont possibles que lorsque la prière est impossible. Non, attends, comment est-ce qu'il dit? La vraie prière et l'amour ne deviennent vrais que lorsque la prière est impossible et que le cœur est devenu pierre. L'ouverture de conscience a plus de pouvoir que l'émotion perturbatrice. Et c'est à nous de prendre soin de la conscience de notre esprit pour lui permettre d'être efficace, d'avoir ce pouvoir transformateur. Parce que dire non à l'émotion perturbatrice, c'est du non-amour. Et la haine ne s'arrête jamais par la haine. Il n'y a que l'amour qui peut la guérir. Ça demande de lâcher nos idéaux. Ajahn Suchito dit « La vie, c'est une belle erreur continuelle. Sans se plaindre, sans se blâmer, sans critiquer les autres, observons pleinement la mystérieuse erreur de la vie et ne la nions pas. » Pour lâcher prise du moi, et pour s'ouvrir au refuge dans ce qui est au-delà de moi, les émotions perturbatrices sont nos amis. Nous avons donc ces quatre fondements de la conscience. Contempler le corps comme un corps, c'est-à-dire le contempler intimement, mais comme si ce n'était pas le nôtre. Contempler les ressentis comme des ressentis, très finement, mais comme si c'était chez quelqu'un d'autre. Et contempler les pensées comme des pensées. Je peux bien voir leur contenu, mais je sais que c'est juste une pensée. Et alors je peux commencer à contempler ce qui est libérateur, c'est dukkha. Ça n'est pas à moi. C'est juste cette dualité du monde qui fait que parfois il y a la peine. Et lorsque nous sombrons dans un moment de dépression ou de négativité, si nous observons bien dans la journée, combien de moments réels de négativité ou de soif de non-existence il y a, Il n'y en a pas tellement. Mais la pensée se saisit de cette émotion-là, qui est courte, et elle construit un moi, qui est à jamais, pour toujours, un moi colérique, méchant, incompétent, qui n'est pas assez, qui n'a rien réussi. Mais observez, ça se passe très peu. Si je lâche les constructions. Et c'est Etil Zoom qui dit, elle a vécu dans un camp de concentration, elle est morte à Auschwitz. Elle dit, ce qu'il faut redouter, ça n'est pas la souffrance, c'est la représentation de la souffrance. Lorsque je souffre vraiment, nous avons des compétences mystérieuses, merveilleuses, qui émergent de la nature humaine. Mais la peur de ce qui va arriver, ça, dit Etil Zoom, faites très attention, parce que ça tue la vie. Je vais terminer avec une parole de je ne sais pas qui. J'écris les paroles, je devrais écrire les noms, je sais, c'est pas bien. Qu'est-ce qui étouffe le monde? Qu'est-ce qui le rend si confus? Qu'est-ce qui pollue le monde et le menace le plus? C'est l'ignorance qui étouffe le monde, dit le maître. Et c'est le manque de soin et l'avidité qui rendent le monde confus. La pulsion du désir pollue le monde. Et la grande source de la peur, c'est la peine. Et la grande source de la peur, c'est la peine de la souffrance. Je crois que c'est le contraire. Et la grande source de la peine, c'est la peur de la souffrance. Les rivières du désir coulent dans toutes les directions. Comment pouvons-nous les endiguer et qu'est-ce qui peut les retenir? Que pouvons-nous employer pour fermer les portes à l'inondation? Toutes les rivières peuvent être stoppées avec les digues de la pleine conscience. J'appelle la pleine conscience la digue de l'inondation et j'appelle la sagesse ce qui peut fermer les portes de la digue pour la protéger, pour nous protéger de l'inondation. Prendre quelques minutes en silence.